J'ai nommé mon message la suprême épée. Nous allons voir pourquoi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ils jouissaient d'une relation parfaite à Dieu. Mais ils décidèrent d'écouter et de croire le malin, Satan, le père du mensonge. La mort et le péché venaient de rentrer dans notre monde. Adam et Ève venaient d'entrer dans les ténèbres, eux qui vivaient dans toute la lumière divine. Ils furent dans l'effroi et la peur, et la crainte est devenue une réalité nouvelle. Depuis ce jour tragique de la chute, où la désobéissance coupa Dieu de l'homme, les ténèbres rendirent notre monde déchu. L'animosité, l'hostilité, la discorde, la confusion et les conflits furent partout. L'être humain rentra en quête de l'arme absolue, celle qui pourra lui apporter la paix, la renommée, les ressources, l'autonomie et le pouvoir. De plus, cette arme offrirait à son utilisateur la capacité de dominer le faible, de soumettre les consciences et d'assujettir ses ennemis. Une arme parfaite, capable de faire face à n'importe quel obstacle. Une arme qui anéantirait toute résistance. Une arme qui ferait de nous les maîtres incontestés du monde. Je cite, en 1861, Richard Gatling créa la première mitrailleuse à plusieurs canons rotatifs. De plus, l'arme atomique qui fut créée pendant le XXe siècle apporta la mort de nombreux civils, comme ce fut le cas à Hiroshima et à Nagasaki le 9 août 1945. Des armes chimiques, bactériologiques, tant d'armes que l'homme a créées pour assouvir sa volonté militaire, expansionniste ou pour dominer. La plupart de ces armes servirent en vérité à satisfaire les désirs charnels de cœurs pécheurs, comme la jalousie, l'amertume, la rivalité ou le meurtre. Mais ces armes, aussi meurtrières soient-elles, ne s'attaquent pas au véritable ennemi et à notre véritable problème. Elles sont souvent utilisées comme des armes de l'injustice. L'arme absolue existe bel et bien. Elle existe véritablement. Elle est une arme de justice. Elle fut forgée par les mains du Tout-Puissant lui-même. Elle n'est pas l'œuvre de main d'homme. Mais qu'est-elle? Quel est son nom? Est-elle accessible aux simples mortels? Dans quel but fut-elle forgée? A-t-elle des motifs différents que les armes de notre monde, qui sont souvent utilisées pour satisfaire nos cœurs tortueux? La parole de Dieu nous donne la réponse de façon parfaitement explicite et claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arme absolue, l'arme invincible. C'est une épée au tranchant divin. J'ai nommé mon message, comme je l'ai dit, l'épée suprême. Car l'arme absolue est bel et bien une épée. C'est une épée de justice, une arme redoutable. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre Hébreux. Les versets que nous allons étudier ce matin sont Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Un mot sur le contexte, sur l'identité de ce livre. Il s'agit d'une épître assez particulière. Et pourquoi, me diriez-vous? Car nous ne connaissons pas ses destinataires. Il est intéressant de noter qu'on ignore aussi si ses destinataires étaient juifs ou païens. L'auteur aussi reste inconnu. Certains théologiens avanceraient la possibilité qu'Apollos, Priscille ou Aquilas en soient les auteurs. Rien n'est si sûr. Cet épître prit le nom des Hébreux en raison de ses nombreuses allusions à l'histoire et à la religion hébraïque. De plus, nous remarquons un très faible intérêt pour les conceptions païennes de l'époque. Nous pensons donc que cet épître s'adressait avant tout à la communauté juive de l'époque. L'épître se concentre essentiellement sur le ministère des sacrificateurs lévitiques. Cet épître est étroitement lié au livre lévitique de l'Ancien Testament. Le livre aux Hébreux est comme un sermon venant de Dieu. Ce livre se veut aussi être extrêmement pratique. Il n'est pas uniquement un traité doctrinal. Ensuite, étudions plus particulièrement le contexte du chapitre 4. Il est question d'une mise en garde très sérieuse. Elle se base sur le psaume 95, versets 7 à 11. Il est question du repos. Nous entendons par repos l'assurance du salut, la confiance dans les promesses de Dieu et la certitude d'un foyer céleste à venir. Un repos que Dieu offre éternellement à ceux qui, mettent leur foi en lui. C'est un appel contre l'endurcissement de cœur. C'est un appel à la foi authentique. Un parallèle est fait avec les Israélites dans le désert lorsque Josué les guida le peuple vers la terre promise. Certains ont désobéi et n'ont pas pu rentrer dans ce repos, n'ont pas pu rentrer dans cette terre promise. Ce chapitre annonce clairement que le repos de Dieu, qui est synonyme aussi de vie éternelle, est encore disponible pour chacun. Cependant, Dieu jugera tous les hommes qui ont refusé de venir à lui, ceux qui ont choisi la voie de la désobéissance. C'est un avertissement sérieux. Le repos, le ciel sont disponibles. N'endurcissons pas nos cœurs, comme il est dit au verset 7. À présent, je vais lire les versets que nous allons étudier. Versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. J'espère que vous voyez tous. Donc j'ai divisé mon message en deux parties distinctes. La première, la nature de la parole de Dieu. Et la deuxième partie, l'effet de la parole de Dieu. Premièrement, il faut s'interroger sur le sens. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'est la parole ? D'un point de vue humain, la parole humaine, premièrement, sert à communiquer nos pensées, notre volonté, nos envies, nos émotions et aussi notre perception. La parole permet de rendre compte de tout cela. La parole communique un message ou une volonté. Il en est pareil avec Dieu. Dieu parle. Le Dieu créateur est un Dieu de parole, un Dieu communicatif, un Dieu relationnel. Un Dieu qui s'adresse à nous, les hommes, sa précieuse création. Dieu n'est pas resté muet, il n'est pas un Dieu de silence. Bien au contraire, il a dit tout ce que nous devions savoir pour connaître la vérité. Et ce matin, j'espère qu'il vous le parlera personnellement à travers les versets étudiés. Le Très-Haut nous a révélé sa volonté, il nous a révélé son identité, il nous a révélé le moyen du salut. Dieu s'est fait connaître. Mes amis, Dieu parle véritablement depuis le début de la création, comme nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 3. Je cite, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu parle et a parlé par son Fils Jésus-Christ, qui est appelé la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Car Jésus-Christ est celui qui est venu du ciel pour parler au nom de Dieu aux hommes, car lui-même étant Dieu. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible, comme il est dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est la parole faite chair. Aujourd'hui, Dieu continue à nous parler par sa parole et par son esprit. Sa voix résonne, elle ne s'éteint pas et elle ne s'éteindra jamais. Ce que Dieu déclare est valable et parfaitement juste pour toujours. Dieu a le désir de parler à chacun, personnellement et intimement. Il a à cœur de toucher nos cœurs et nos consciences. Il est un Dieu de parole, d'intimité et d'amour. D'après le pasteur et théologien John MacArthur, le terme « parole de Dieu » dans le Nouveau Testament est, je cite, « créatrice de l'univers ». Elle constitue l'expression toute-puissante de Dieu dans sa création, sa sagesse, sa révélation et son salut en désignant une personne, Jésus-Christ. Il est la plus merveilleuse révélation de Dieu le Père. Durant l'histoire humaine, le Tout-Puissant a jugé bon d'utiliser des hommes de différentes conditions sociales, d'arrière-plan religieux ou ethnique différents, pour nous communiquer sa parole. Ces textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, rédigés par des prophètes, des apôtres ou des témoins oculaires, forment la Bible. Ce livre est le rassemblement de tous les textes inspirés de Dieu. Ce livre contient la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a communiqué. Mais la parole de Dieu n'est pas le résultat d'une pensée humaine ou le reflet d'une société donnée, ou même d'une tradition religieuse quelconque. Non, non. Ces mots, ces phrases viennent directement du Créateur. Ces mots viennent d'en haut. Dieu est l'auteur de ce livre. Dieu a désiré préserver la personnalité et le caractère de chaque auteur, certes. Cependant, c'est bien le Seigneur des cieux et de la terre qui inspira chaque mot. Nous reviendrons sur cette notion d'inspiration. La Bible qui contient la parole de Dieu est un miracle, car c'est la voix de Dieu lui-même qui y résonne. Elle communique sa vérité, sa nature, sa sagesse, sa sainteté, sa volonté, sa justice, sa colère, son horreur du péché, sa grâce et le moyen unique du salut qui se trouve en Christ. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Ensuite, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante. » Vivante. Voilà un attribut de cette parole. Le mot « vivant », si nous regardons le mot en grec ancien, est « zao », qui signifie « vivant »,« vivre », »,« être en vie », »,« vivifier », »,« faire vivre ». Nous avions dit que la parole servait à communiquer sa volonté. Elle reflète aussi notre cœur, notre moi intérieur. La parole reflète qui nous sommes. La parole donne accès à ce que nous sommes. Elle est un reflet de qui je suis vraiment. Dieu est un Dieu de vie. Il est l'auteur de la vie. Il est la source de la vie. Sa parole est un reflet direct de qui il est. Étant lui-même la vie, sa parole est vivante, sa parole est vie. La parole de Dieu reflète qui il est. Ce qui vient de Dieu est toujours vérité et vivant, comme nous le lisons dans Actes, chapitre 7, versets 37 et 38. Je lis, « C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscita d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. La loi que reçut Moïse était vivante car elle venait de Dieu. » Je vais illustrer en quatre points à présent. Quatre raisons qui nous font dire que la parole de Dieu est vivante. Le premier point, la parole est inspirée. Oui, la parole de Dieu est inspirée. Regardons ensemble un verset fascinant, 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Oui, la Bible affirme que cette parole, que la parole de Dieu est inspirée. Les Écritures saintes sont donc inspirées. Comprendre ce terme inspiré est primordial. Ici, le terme pour inspirer est théopneustos, qui signifie inspiré par Dieu. Théo signifiant Dieu. Et pneustos vient du verbe pneuma, qui veut dire respirer. Autre information intéressante, le Saint-Esprit en grec est traduit par pneuma, ce qui a le sens de souffle, d'inspiration, d'esprit et de vérité. L'Esprit Saint de Dieu est comme un souffle puissant et divin. Dieu a donc inspiré, c'est-à-dire guidé les nombreux auteurs de sa parole par son souffle, par son esprit. Le souffle de Dieu est vie. Nous lisons en Genèse 2, chapitre 2, verset 7, je cite, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint âme vivante. Seul l'Éternel est capable de communiquer la vie. Sa parole est inspirée, elle est vivante, et en mesure d'offrir la vie. » La parole de Dieu contient cette vie surnaturelle. La Bible est le seul livre vivant. Tous les autres livres au monde sont morts. Seul ce livre est vivant. et peut offrir la vie. Il est le seul à contenir la vie surnaturelle de Dieu. Ensuite, second point qui illustre le terme vivant, qui explique que la parole est vivante. La parole est une semence vivante. La parole est une semence vivante. Oui, la Bible affirme que l'homme est mort spirituellement, qu'il est étranger à la vie de Dieu. L'homme ne peut connaître Dieu en esprit, par ses propres forces. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a donné sa parole pour que nous parvenions au salut de notre âme, pour que nous parvenions à revivre spirituellement. Dieu utilise sa parole et son Esprit Saint. La parole de Dieu est une extraordinaire semence, puissante et merveilleuse. Elle seule a le pouvoir d'offrir la vie, une vie nouvelle et surnaturelle. Si nous regardons à 1 Pierre chapitre 1, versets 22 et 23, nous lisons: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Une semence de vie capable de porter du fruit. Une semence propre au salut, une semence miraculeuse qui sort l'homme des ténèbres et de la mort spirituelle pour celui qui accepte de se repentir. Sa parole est une graine miraculeuse que Dieu jette sur la terre morte de nos cœurs, qui est en mesure de produire une nouvelle naissance. Comme le Seigneur le dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez à nouveau. La parole seule de Dieu est capable de faire pousser la rose du salut, qui s'élève vers le ciel comme reconnaissante de sa grâce. Troisième point, les paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus est Dieu. Voilà la vérité. Pas le Dieu uniquement des chrétiens, mais il est le Dieu créateur de toute créature et de tout homme. Ses paroles ne sont pas mortes, vaines ou éphémères. Bien au contraire. Les paroles du Seigneur sont vie. Ouvrez, s'il vous plaît, à Jean chapitre 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus-Christ est Dieu. Et comme nous l'avons vu, Dieu est vie et il est vivant. Ce qu'il communique est vie. Ensuite, la parole de Dieu est vivante car elle est une lumière à mes pieds. Une lumière à mes pieds. La parole de Dieu est vie, mais elle est vérité agissante. La parole de Dieu est lumière. Le psalmiste, qui était David, disait dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce livre a toujours quelque chose à nous apprendre et à nous dire. Il n'est jamais vide. Il parle à mon âme. Il a toujours un effet sur ma conscience et dans ma vie. Ce livre éclaire ma vie, me guide, me révèle la volonté de Dieu. Ce livre me reprend, me préserve des sentiers destructeurs. Il m'apporte la paix, il me console dans le découragement. Il m'accompagne dans la tourmente, il m'encourage, il déclare la vérité. Ce livre me rend sage, fort et aimant. Oui, ce livre est vivant, car il contient la parole inspirée de Dieu. Oui, ce livre rugit, c'est un rugissement de vérité et de vie. Ce livre agit sur ma vie. Il a un impact surnaturel sur mon destin et mon existence. Il touche et influence même mon éternité céleste. La parole de Dieu nous libère, elle nous comble, elle nous satisfait, elle ouvre nos yeux. Elle nous apprend à aimer, elle nous guide sur les sentiers de la justice. Oui, seule la parole authentique de Dieu est vivante et capable d'accomplir cela. Aucune autre parole en est capable. Elle est plus précieuse que tout l'or et toutes les richesses du monde. Oui, seule la parole de Dieu est vivante et peut prétendre à cela. Vivante, car elle agit puissamment dans ma vie, dans vos vies, dans nos vies. Ensuite, toujours au verset 12, si nous revenons à Hébreux, disons, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace. Ce mot efficace vient du grec énergès, qui est la racine du mot énergie en français. Énergès signifie puissant, actif, agissant et puissant à. Ce livre a de la puissance. Nous pouvons nous demander, puissant à faire quoi au juste ? Efficace à quoi ? C'est cette question qu'il faudra se poser. Pour y répondre, je vais vous donner quatre principales raisons. Il en existe d'autres. Ce terme mériterait à lui seul une série de messages. Le premier point qui rend cette parole efficace. Efficace pour nourrir le croyant. Dans Matthieu 4, chapitre 4, Jésus affirme clairement cela. Je cite Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pouvons lire aussi dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oui, sans nourriture spirituelle, sans la parole de Dieu, sans la lire et sans la méditer, je ne peux pas grandir spirituellement. Je ne peux pas être victorieux et renouvelé. Je ne peux pas avancer dans ma sanctification. Je ne peux pas avancer sur le chemin de la ressemblance à Christ, mon Sauveur. Dieu nous appelle fermement à nous nourrir de cette parole, de sa parole. La parole de Dieu est donc efficace pour nourrir le croyant, le fortifier, l'encourager, le tailler à l'image du roi céleste et le rendre mature. Une efficacité que seule la Bible peut nous apporter. Sans la Bible, sans cette nourriture pour nos âmes, nous ne pouvons pas faire le moindre centimètre dans notre vie de chrétien. Elle est donc incontournable. Il y a une forte tendance aujourd'hui à prendre des substituts à la parole. Nous privilégions souvent les livres de témoignages, les prédications sur Internet, des lectures de blogs rapides tous les matins. Toutes ces choses peuvent se révéler être excellentes. Cependant, rien ne remplace la parole de Dieu comme nourriture pour le croyant. Elle est la vraie nourriture du disciple du Seigneur. Ensuite, la parole de Dieu est puissante ou efficace pour nous révéler la vérité. Pour nous révéler la vérité. Dans un monde dominé par Satan qui véhicule une pléthore de mensonges, dans un monde qui ne cherche pas la vérité, qui tend à dire qu'elle n'existe pas et que personne ne peut prétendre la connaître, dans un monde qui retient la vérité captive, chacun, l'opinion de chacun, prime sur ce qui est juste, sur ce qui est véritablement vrai. Et pour ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, Dieu leur permet de la connaître à travers sa parole. À travers sa parole. Oui, la Bible est le livre de la vérité. Elle parle de Dieu, de l'homme et de sa condition, du monde spirituel qui nous entoure, sur les destinées offertes à l'homme. Et tout cela d'une façon explicite et claire. Dans nos sociétés où les ténèbres spirituelles sont épaisses, la parole du Très-Haut est un rayon de lumière, d'une immense pureté, un vent puissant qui chasse le brouillard de l'ignorance et les nuages du mensonge. Oui, la parole du Seigneur révèle la vérité, car elle est prononcée directement de celui qui se nomme la vérité. Jésus dit en Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En effet, l'homme a besoin de parvenir à la vérité pour accéder au salut de son âme. Seul un évangile juste peut sauver. Seul un évangile pur peut mener un pécheur à la repentance et au pardon de ses péchés, pour le faire rentrer dans une nouveauté de vie. Jésus dit encore dans Jean chapitre 17, verset 17, en parlant de la parole, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Chaque mot, chaque phrase qui sort de la bouche de l'Éternel est vrai et vérité. » Ensuite, la parole de Dieu est efficace et puissante pour résister et vaincre Satan. Mes frères, mes sœurs, il existe un ennemi redoutable qui ne dort jamais, qui se dresse contre Dieu, sa parole, contre la vérité et contre la création. Il se dresse aussi contre tous les croyants véritables et contre l'Église du Seigneur, un ennemi sans pitié. Il s'agit de Satan, ange déchu, qui fut autrefois le porteur de lumière, un ange magnifique qui, par orgueil, décida de s'élever au-dessus de Dieu afin de devenir lui-même Dieu. Il chuta et est devenu un ange déchu. Il œuvre toujours dans les cœurs des hommes pour les maintenir sous son esclavage, pour leur cacher la vérité et pour les attirer avec lui dans la perdition éternelle. Satan offre le pouvoir, la célébrité et l'argent, tout ce que notre cœur charnel désire. Voilà ce que Jésus déclare à propos de cet ennemi en Jean chapitre 8, verset 44. Je lis, « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. » Nous devons être armés, mes amis, et connaître la parole de Dieu, car seule la vérité triomphe du mensonge. Seule la vérité triomphe du mensonge. Lorsque Jésus fut dans le désert, il fut tenté par Satan, comme nous le lisons dans Matthieu, chapitre 4. Jésus a eu une victoire totale sur le père du mensonge, sans argumenter, sans recourir à des miracles particuliers, mais en citant la parole de Dieu correctement. Il est écrit. Au verset 8 du chapitre 4 à 11, je lis, dans Matthieu, « Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Il est écrit. Il est écrit. Notre Seigneur et notre Maître eut la victoire en citant correctement la parole de Dieu. Le diable fut obligé de fuir. La vérité est toute puissante. La vérité est implacable. Oui, la vérité est absolue. L'ennemi de Dieu, vous savez, connaît parfaitement la Sainte Parole. Je tenais à le dire ce matin. Il la connaît mieux que n'importe quel homme de Dieu, mieux que n'importe quel pasteur ou théologien. Il a eu le privilège de contempler Dieu. Il connaît Dieu. Cependant, il tord les Écritures pour tromper. Il tord les Écritures pour tromper. Il cite les Écritures, mais hors de leur contexte, et en occultant certains versets, afin de mieux mentir. Le diable connaît parfaitement le tranchant absolu de la parole de Dieu. Il sait qu'elle est vérité, implacable. Alors il l'utilise, mais dans un but pernicieux et destructeur. Ses desseins sont terriblement mauvais. Dans Matthieu 4, au verset 5 à 7, je vais lire, « Le diable le transporta, en parlant de Jésus, le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » À ce moment précis, Satan cite le psaume 91, versets 11 et 12. Il cite le psaume, il cite la parole de Dieu. Voilà la réalité. Satan, les anges déchus et les faux docteurs qui les suivent ont cette habitude fâcheuse de citer les Écritures afin de tromper, de masquer la vérité. Ils utilisent le tranchant de la parole de Dieu pour détruire, annihiler et surtout semer la confusion. Citer la Bible n'est pas suffisant. Il faut qu'un verset ne soit pas sorti de son contexte. Et comme nous l'avons vu, Jésus annule le travail du diable en citant correctement les Écritures, en apportant de la clarté et en redéfinissant puissamment ce qui est juste, ce qui est juste. C'est aussi le rôle de chaque disciple du Seigneur, vous savez. Le rôle, notre rôle, est de connaître la parole de Dieu, de s'en servir contre le mensonge, afin que la vérité soit triomphante. Si le maître a eu la victoire en citant correctement les Écritures, comment le disciple doit l'avoir d'après vous? Retenons cela, cela est vital. Il ne peut y avoir de victoire sur l'erreur sans la parole. Il ne peut y avoir de clarté sans la parole. Nous devons apprendre à manier l'épée qu'est la parole. Dernier point, la parole de Dieu est efficace et puissante pour exposer, pour révéler notre état de péché. Pour révéler notre état de péché et de pécheur. Lorsqu'on commence à lire la Bible en la recevant comme la parole du Dieu très saint, si nous acceptons de se laisser reprendre par elle, on prend alors conscience d'une chose. Nous prenons conscience de notre nature impure. Nous réalisons que nous sommes souillés par le péché. Nous nous apercevons que nous sommes pécheurs et que Dieu est saint, trois fois saint. La Bible fournit d'innombrables versets qui illustrent cela. Comme dans Matthieu chapitre 15, verset 18, je lis « Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. » Ou encore Marc chapitre 7, verset 21 à 22, je lis « Car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil et folie. La parole de Dieu nous révèle notre état de servitude et d'asservissement au péché. La parole, telle une épée acérée, pénètre partout pour dévoiler notre corruption. Rien n'échappe à son action. Cependant, celui qui se laisse sonder et juger par l'épée tranchante de la parole sera guidé de l'erreur et de l'incrédulité. Réveillé et purifié, il deviendra une table vivante sur laquelle Dieu lui-même gravera sa loi. Dans Hébreux, chapitre 8, verset 10, nous lisons « Je mettrai mes lois dans leurs intelligences, je les inscrirai aussi dans leur cœur. » La parole est comme un miroir dans lequel l'homme peut voir son reflet. Pas un reflet purement physique, mais un reflet qui révèle son état moral et spirituel. Je vais lire Jacques, chapitre 1, versets 23 et 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comme il l'était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc quatre points qui rendent la parole de Dieu puissante et efficace. Elle sert à nourrir le croyant, à révéler la vérité, à vaincre Satan et à lui résister. Et quatrième point, elle sert à exposer et révéler notre péché. La parole de Dieu est aussi efficace à sanctifier, à sauver, à réfuter l'erreur, à satisfaire nos âmes, à discipliner, à conforter, à révéler le péché charnel de l'homme. Elle est puissante pour nous faire connaître Dieu, qui il est, ses attributs, sa nature, sa sainteté et son plan de salut. Finalement, la parole peut s'adresser à tout homme, à n'importe quel âge, n'importe quelle condition sociale, à n'importe quelle époque, de n'importe quel arrière-plan religieux ou ethnique. La parole de Dieu est le message parfait, le message de vérité adressé à l'humanité. D'après Simone G. Kistmaker, la Bible n'est pas un ensemble de textes religieux issus du passé, mais la parole de Dieu est capable de parler à tous les hommes, à tous les hommes. Dieu veut s'adresser à chacun d'entre nous. Ensuite, nous lisons, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante. La parole de Dieu est tranchante. Encore une fois, nous allons étudier ce que ce terme signifie. La Bible est comparée à une arme, à une épée à double tranchant. À quoi peut bien servir cette arme ? Car oui, l'épée est avant tout une arme à double tranchant qui se distingue du sabre, qui n'en possède qu'un. Donc l'épée a deux tranchants. Donc une lame, deux tranchants. C'est la caractéristique même de l'épée. L'épée est un instrument de guerre et de défense. Mais elle incarne aussi la mise à mort, le jugement, la justice et la condamnation. L'épée est une arme composée essentiellement d'une poignée, d'une garde et d'une lame à deux tranchants. Dans le verset 12, nous lisons que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque. La parole de Dieu est donc comparée à une épée. C'est une métaphore, car elle est une épée spirituelle et non physique. C'est une représentation matérielle de quelque chose d'immatériel, et pourtant de bien réel. Une épée forgée par les mains du forgeron céleste. Une arme au tranchant divin, dont la lame ne s'émousse jamais. Ni les opinions humaines, ni le temps qui passe, ni les modes et ni les époques ne pourront émousser son tranchant. Une lame qui reste intacte, indestructible au fil du temps. C'est une lame invincible, une arme parfaite. Elle est capable de tout trancher, de tout percer. Oui, la parole de Dieu est plus tranchante que tout et plus puissante que n'importe qui. Aucune lame humaine ne peut espérer égaler son tranchant absolu. C'est une arme unique. Il n'y en a pas de semblable dans tout l'univers. Ensuite, étudions particulièrement le mot tranchant, voilà, maintenant. Donc, grâce à ces deux tranchants sur les côtés, cette épée est faite pour trancher. Quel est donc le secret de son tranchant si extraordinaire ? La parole est perçue comme une lame extrêmement tranchante. Le premier tranchant est celui, nous pourrions l'appeler, de la justification, de la sanctification et de l'édification. Un tranchant de cette épée, le premier tranchant, est utilisé pour sauver, pour encourager, pour réconforter, pour calmer les cœurs anxieux et apeurés. Ce tranchant est utile pour justifier et sanctifier. Dans Jean chapitre 17, verset 17, nous lisons « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Oui, pour celui qui a le cœur abattu, la parole de Dieu réconforte. Pour celui qui a besoin d'être repris et guidé, la parole de Dieu reprend. Pour celui qui a besoin d'encouragement, la parole encourage. Pour celui qui a besoin de sagesse, la parole apporte l'authentique sagesse liée à la crainte de Dieu. Pour l'homme qui accepte de se faire reprendre par Dieu, la parole l'encouragera et le soutiendra. Pour celui qui souhaite ressembler à Jésus-Christ, alors la parole l'aidera dans sa marche de sanctification. C'est le tranchant de la justification. Par contre, le second tranchant qui compose cette épée est celui de la condamnation. Oui, en effet, comme nous l'avons dit, la parole de Dieu permet à l'homme pécheur de connaître le Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Elle l'encourage et le soutient. Cependant, elle est aussi apte à juger le péché, à réprimer le mal et à condamner les mauvaises pensées du cœur. Dieu jugera les hommes impies et rebelles par sa parole, par cette épée divine à double tranchant. comme il est écrit en Apocalypse chapitre 2 verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ou encore dans Jean chapitre 12 verset 48. Celui qui rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Dieu est utilisée aussi bien pour sauver que pour condamner et juger. C'est pour cette raison qu'elle est comparée à une épée à deux tranchants. Cette parole a un double emploi. Elle défendra l'homme repenti de son mal lorsqu'il sera devant le trône du Tout-Puissant. Mais pour l'homme incrédule, pour celui qui aime son péché et le monde plus que Dieu, elle sera l'arme qui le condamnera d'une façon juste, parfaite et implacable. Une même parole peut très bien encourager, réconforter ou condamner. D'après Steve Lawson, théologien à Grace Community Church en Californie, chaque verset, chaque mot de la Bible est aiguisé. Tout y est extrêmement coupant et tranchant. La parole tranche profondément dans nos consciences. Elle nous convainc. Elle nous révèle la vérité. Elle impacte nos vies. Son tranchant coupe profondément dans nos vies et dans nos consciences. Avant de devenir chrétien, j'ai été touché par un verset en particulier. C'était 2 Corinthiens 5, 17. Son sens m'intriguait. Ce verset parle de cette nouvelle naissance, de cette nouveauté de vie. Pour chacun, il y a des versets qui ont été plus tranchants que d'autres. Dieu parle à notre cœur par l'intermédiaire de sa parole et de son esprit. Ce livre a toujours quelque chose à nous dire. Cette parole nous poursuit. Il ne faudrait vraiment pas avoir une écoute sélective et se laisser pénétrer par elle d'une façon pleine et entière. Ensuite, j'aimerais aborder un point, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Dans Éphésiens 6, verset 17, nous lisons « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Oui, la parole de Dieu est l'épée que chaque croyant devrait absolument avoir et connaître. Une épée que chaque chrétien authentique né de nouveau se doit de maîtriser et de manier. C'est l'arme que Dieu nous a donnée. Nous devons nous l'approprier pour vaincre les mensonges de Satan, les tentations du monde et de la chair. Cette épée est la parole de Dieu. Nous pouvons faire le lien avec notre verset dans le livre des Hébreux, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Cette épée est faite pour être utilisée. Utilisée totalement et pleinement, car elle est vivante et efficace. Je vous présente quelque chose. Certains me diront, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est ? Certains me diront, ça ressemble à une épée. En fait, je mets devant vous le problème que j'ai eu et que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, comme beaucoup d'églises. À quoi bon avoir l'arme la plus tranchante du monde si elle reste dans son fourreau ? Dieu nous appelle à sortir l'arme du fourreau. Dieu nous appelle à connaître sa parole. Dieu nous appelle à utiliser son tranchant. Fin de la démonstration. Oui, la parole de Dieu est une épée tranchante extraordinaire qui permet de vivre une vie victorieuse et aussi de libérer ceux qui se trouvent encore sous la colère de Dieu. C'est une arme qui s'attaque au véritable ennemi. La Bible nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est une épée qui est dressée vers les ennemis jurés des hommes, Satan et les démons. Son tranchant n'est pas destiné à blesser nos semblables, dans le seul but de satisfaire notre fierté ou pour avoir raison, Non, pas du tout. Cette arme est pure, cette épée est sainte. Cette épée est une arme de justice. Elle s'attaque à notre péché et au mensonge enfanté par les ténèbres. Encore une fois, nous devons apprendre à l'utiliser, nous devons la connaître. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Ensuite, nous allons commencer la deuxième partie, la parole de Dieu, l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu pénètre. Elle est pénétrante. La parole de Dieu pénètre. Ce terme est issu du grec dikne omai, qui signifie passer à travers, pénétrer, percer. La parole est aussi une épée parfaitement adaptée aux attaques d'estoc, c'est-à-dire des attaques avec la pointe, visant la pénétration. Elle pénètre, elle ne connaît aucune résistance. Elle est capable de tout transpercer, de tout pénétrer. La qualité de son tranchant lui offre une remarquable capacité de pénétration. Une lame qui ne s'attaque pas à la surface de nos vies ou de notre être, mais qui va au-delà des apparences, au-delà de ce qui semble être l'évidence. Elle pénètre pour révéler ce qui est, afin de révéler qui nous sommes vraiment, loin des artifices et souvent loin de ce que nous pensons. Seule la Bible a ce pouvoir. Elle est la seule à toucher notre âme, à nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être. Elle a pour but de dépasser toutes les frontières que nous avons pu nous créer, la réputation, le statut social, nos exploits professionnels, notre argent, notre amour-propre et même nos bonnes prétentions religieuses à bien faire. Elle perce comme dans du beurre pour atteindre le cœur de ma vie, le cœur de mon être, le cœur de mon âme. Elle atteint ce qu'il y a de plus profond en moi. Nous lisons que la parole est capable de partager âme et esprit, jointure et moelle. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Âme et esprit, jointure et moelle. Il existe certains théologiens qui croient en la tripartite de l'homme, à savoir âme, esprit et corps. Et d'autres théologiens qui pensent que l'homme est composé uniquement d'une partie matérielle et d'une partie spirituelle, les bipartites. Je le mentionne juste, mais pour notre étude de notre texte, cela n'a pas une véritable importance. Ce que l'auteur de l'Épître tente d'exprimer est une dimension matérielle et immatérielle de l'homme. On peut comprendre cette énumération comme l'expression, plus courante, « corps et âmes ». Cela sert à exprimer l'être humain dans son entier. J'ai lu de nombreux commentaires par rapport à ce passage. Je vais donc vous donner une explication brève, celle qui me semble la plus plausible. Premièrement, la parole de Dieu pénètre jusqu'au cœur de mon être immatériel. Elle atteint le plus profond de mon être, de ma personne, comme je l'ai dit. Elle seule y a accès. C'est quelque chose de fascinant. Elle va aussi loin qu'il est possible d'aller. Là où elle s'arrête, c'est qu'il n'y a plus rien à percer. Elle perce et pénètre mon âme. Deuxièmement, la parole de Dieu pénètre et délimite le terrain du sacré, du juste, de ce qui est vrai, de ce qui est de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, elle place ce qui est du monde, de Satan et de la chair. Elle fait une nette distinction entre les deux. Le spirituel et l'immatériel représentent ce qui est d'en haut. Ils s'opposent à ce qui est terrestre, charnel. Cela est représenté par l'aspect matériel de l'homme. Nous y voyons donc une opposition forte, une dichotomie évidente. La parole trace un trait net et précis entre le spirituel et le charnel. Par cela, elle offre aux croyants d'aiguiser leur discernement. Elle rend la vue à celui qui est confus et perdu. Comment savoir si mes motivations trouvent leur source dans ma chair déchue ou bien en Christ? C'est la parole qui nous apporte la clarté nécessaire. Elle révélera si nos motifs sont mauvais, impurs ou bien s'ils sont conformes à la volonté de Dieu. Ensuite, nous lisons juge, la parole de Dieu juge. Elle a donc cette action. Aujourd'hui, chacun émet un jugement sur l'autre, sur le monde, sur notre société. Nous jugeons, nous estimons et nous jaugeons. Cependant, notre problème évident est que notre jugement est souvent biaisé et intéressé. Nous n'arrivons pas à rendre un jugement pur et parfait. Seul Dieu et sa parole en sont véritablement capables, car il est le seul juge sans péché qui existe. Le mot grec pour juger est kritikos, qui signifie « capable de juger », habile au jugement, discerné. La Bible nous juge. Elle établit un diagnostic juste sur notre état spirituel. Elle nous dévoile notre véritable identité. Elle affirme connaître tout à notre sujet, absolument tout. Elle a toujours le dernier mot. Elle ne cherche pas à nous caresser dans le sens du poil, mais annonce la vérité, dit ce qui est vrai. La parole de Dieu révèle, met en lumière et dévoile. On ne peut se cacher devant elle. Elle pénètre tout pour nous mettre à nu, pour nous montrer ce que nous sommes. Ce qui est invisible et dissimulé, elle le rend visible et accessible. Elle est comme des rayons X divins et ultra-puissants. La chair, les apparences, les tentatives de dissimulation sont transpercées. Elles passent à travers pour atteindre le cœur et pour juger, pour révéler. S'il y a bien une chose qu'il est difficile de percevoir, ce sont les véritables intentions du cœur, vous savez. Que ce soit chez nous-mêmes ou chez les autres. Comment pourrions-nous dire connaître celle d'autrui parfaitement ou encore discerner les nôtres? L'homme a un cœur si tortueux. C'est chose difficile, voire impossible pour nous. Cependant, la parole de Dieu seule a ce pouvoir. En jugeant mes intentions, elle affiche la motivation de mes actions. Elle révèle qui je suis. Elle dévoile ma véritable nature et mes réelles motivations. Aïe. Elle nous met à nu. Personne ne peut se cacher devant elle. Nous ne pouvons pas la contester ou contester ce qu'elle affirme. Nous pouvons toujours nous voiler la face, mais au fond, elle nous a déjà percé. Elle nous a déjà exposé à la lumière. Ce qui est invisible devient visible. Ce qui est caché, elle l'expose. La parole perce pour révéler notre foi aussi, pour révéler si nous sommes vraiment de Dieu, si nous sommes ses enfants et ses disciples, ou bien un hypocrite ou un menteur. Elle juge ceux qui sont animés par une foi authentique, ou bien ceux qui professent seulement le nom du Sauveur des bouts des lèvres, sans le suivre vraiment et sincèrement. Elle dévoile ceux qui viennent à Christ par intérêt, en attendant de lui seulement des récompenses. Elle juge, elle sépare les vrais enfants de Dieu et ceux qui se prétendent chrétiens. Elle les sépare. Elle instaure des critères. Elle affirme. Elle juge. Elle instaure la limite entre les rachetés, véritables, et ceux qui sont les enfants de colère, ceux qui sont encore sous la colère du Très-Haut. On peut tromper les hommes, mais personne... Personne ne trompe Dieu et sa parole. Personne ne trompe le regard perçant et divin de Dieu. Il est important de dire que la parole vous percera personnellement. C'est entre vous et Dieu. Quand elle nous transperce et nous juge, cela peut faire mal. Cela peut même être vécu comme quelque chose de douloureux. Mais c'est comme une opération chirurgicale. En chirurgie, on pénètre pour guérir et soigner le mal qui nous ronge. Dans notre cas, c'est celui du péché. La douleur est temporaire pour celui qui accepte d'obéir, pour celui qui délaisse le mal pour épouser la vie. Alors il trouvera la paix avec Dieu et la guérison. Laissons-nous pénétrer par la parole, car la douleur laissera place à la joie et à la réconciliation. Par contre, pour celui qui refuse de se laisser transpercer par la parole de son vivant sur terre, pour cet homme, la parole le jugera, elle le condamnera à subir la colère de Dieu et d'être coupé avec lui éternellement. Dieu de son ciel crie pour que nous fassions le bon choix. Dieu a tellement à cœur de nous sauver. Dieu nous aime tellement. Ensuite, Au verset 13, Hébreux chapitre 4, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je bois juste une goutte d'eau. Nulle créature, il est dit, nulle créature. Cette expression est intéressante. En effet, cela va au-delà des hommes, au-delà de la race humaine. Le terme grec pour créature est ktisis. Ce terme renvoie à tout ce qui a été créé, à tout ce qui a été créé de la main de Dieu. Homme, autorité et même ange déchu. En effet, cette expression « nulle créature » montre la largeur et l'étendue de ce que Dieu voit, exprime sa puissance et sa souveraineté totale sur ce qu'il a créé. Les hommes seront jugés, les chefs des nations, les hommes riches, pauvres, puissants, inconnus, célèbres, tous le seront. Mais les anges rebelles à Dieu aussi, ces anges déchus qui ont suivi Satan dans sa chute, sont destinés à l'enfer. Le salut leur est refusé, contrairement aux hommes. En Matthieu 25, 41, nous lisons les paroles de Jésus même. Je lis. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Dieu jugera les hommes, mais aussi certains anges, ceux qui ont suivi Satan. Donc nulle créature. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Que représente lui? Pourquoi le texte ne nous parle-t-il pas de la parole en la nommant par le pronom « elle » par un pronom féminin? Le lui représente Dieu. Le lui représente Dieu. Dans le verset 12, il était question de la parole de Dieu. Dans le verset 13, il y a un basculement. Il s'agit désormais du Créateur. Comment cela est-il possible? La parole reflète son auteur. Elle est issue de l'Éternel. Quand nous apprenons que la parole nous juge, c'est revenir à dire que Dieu nous juge. Il y a une divine continuité entre Dieu et sa parole. Une divine continuité. Chaque individu est jugé par la parole de Dieu et aussi par Dieu lui-même qui en est l'auteur. Qui en est l'auteur. Les deux sont en accord parfait. D'après un commentaire de John MacArthur, je cite « Chacun a des comptes à rendre devant la parole écrite et vivante et devant Dieu qui en est l'auteur. » Oui, la parole de Dieu partage les attributs mêmes du Seigneur. Elle est pleine de puissance, de vérité, elle est active et vivante. Comme nous l'avons vu, la parole nous dévoile et nous montre nos véritables intentions. Il en est de même avec le regard de Dieu. Son regard perce tout, comme sa parole. Rien ne peut lui être caché. Il sait tout, connaît tout. Il est le Dieu parfait et omniscient. Il est le Dieu tout-puissant qui règne. Il est impossible de dissimuler ou de se cacher devant sa face. Tout est connu de sa part. Il est inutile de tenter de fuir. Nulle créature. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre place dans ce monde, peu importe vos privilèges, peu importe d'où vous venez, de quelle famille, personne ne peut espérer se cacher. Personne. Dans Job, chapitre 34, verset 21, nous lisons « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. » Ou encore dans le psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple. » L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent ses paupières. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Ensuite, dans le verset 13, nous lisons « Mais tout est nu et découvert. » Tout. Tout. Un petit mot, hein, et qui veut dire beaucoup. Vient du mot grec « pas », qui signifie « toute chose, chaque chose ». Désigne toute action, toute pensée, toute parole. Désigne aussi l'état réel de notre cœur, nos motivations, les buts de notre vie. Tout ce qui nous compose, absolument tout, dans le moindre détail, sera nu et découvert devant Dieu. Absolument tout. Job, chapitre 12, verset 22, A, nous dit, Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Ou encore Luc chapitre 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret à tous les hommes. Il ne restera plus que le véritable état de cœur, dénudé. Une nudité spirituelle qui dévoilera le fond de nos entrailles. Comme si toutes nos pensées, nos réflexions, nos désirs, nos péchés étaient enfin mis à la lumière du regard de Dieu, notre juge. Nous serons nus comme des vers face à la sainteté étincelante du Très-Haut. Ensuite, le mot « découvert ». Le mot « découvert », c'est un terme technique unique dans tout le Nouveau Testament. C'est la seule fois qu'il apparaît dans tout le Nouveau Testament. D'après un commentaire de John MacArthur, il fait référence aux victimes dont on renversait la tête afin de les exposer au cou. Il suggère l'impossibilité de se voiler la face. Découvert a le sens de être exposé complètement, complètement. Tout y est visible, tout y est observable, rien n'est dissimulable. Quand il faudra rendre compte à la fin, tous les hommes devront regarder Dieu et soutenir son regard face à face. Ce mot exprime avant tout notre impuissance et notre totale incapacité à fuir ou à trouver un échappatoire. Nous serons à la merci de la justice parfaite de notre Dieu. Nous serons découverts, prêts à recevoir le juste verdict de notre Créateur. Nous serons impuissants face à sa toute-puissance. Et finalement, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La fin du verset 13. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il est tellement courant aujourd'hui d'affirmer « Ah, Dieu n'existe pas. Ah, après la mort, il n'y a rien. Profitons de la vie. Amusons-nous. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je vis et je verrai après la mort si Dieu est vraiment là. » Le mal, le bien, tout cela est bien arbitraire. Chacun est son propre juge. Voilà le venin, les mensonges que le prince de ce monde, Satan, distille à forte dose dans les consciences de notre époque, à échelle planétaire bien sûr, il ne va pas se gêner. Le plaisir avant tout, la jouissance avant tout, ma satisfaction personnelle avant tout, tant pis pour les autres, tant pis pour faire le bien, tant pis, tant pis. Je fais ce qu'il me plaît. Il est dit dans Romains chapitre 3, verset 11, je cite, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Oui, l'attitude charnelle de l'homme, c'est de vivre pour soi, sans se soucier de Dieu. Nous ne tolérons pas qu'un autre vienne concurrencer la place de notre trône dans notre vie. Nous n'aimons pas entendre qu'il existe un autre roi. Eh bien si. Nous ignorons Dieu et surtout sa sainteté, sa justice, sa colère et son jugement. L'impiété et l'ingratitude nous définissent. L'homme, peu importe ce qu'il croit, ne fera jamais disparaître le jugement à venir. Peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que les gens croient, nous n'effacerons pas qui est Dieu et ce qu'il va faire et son jugement. Dieu est notre Créateur. Il est celui qui est à l'origine de l'univers et de l'humanité. Comment pourrions-nous seulement penser qu'après nous avoir créé, parlé, guidé, enseigné, après nous avoir donné sa parole pour connaître la vérité et le chemin du salut, après nous avoir offert gracieusement chaque jour de notre vie et chaque respiration, après avoir reçu une famille, des amis, la santé, de la nourriture, et par-dessus tout, après nous avoir envoyé son Fils Jésus-Christ, pour payer le prix que je ne pouvais pas payer. Comment l'homme peut-il se mentir à lui-même à ce point, en affirmant « Je ne dois rien à personne, tout cela est un dû, c'est chose normale que de tout posséder. » Voilà l'attitude qui est souvent caractéristique, qui caractérise notre époque et notre temps. Notre ingratitude et notre incrédulité nous aveuglent si violemment que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, toutes les bonnes choses de notre vie viennent du ciel. Dieu nous aime tellement que même si nous ne le méritons pas, Il donne abondamment afin de montrer son amour, afin que nous puissions considérer son salut. Cependant, cet amour ne supprimera pas sa colère et sa justice. Car Dieu est juste et doit juger le péché. Il doit juger le péché. Mes amis, chacun se retrouvera tôt ou tard devant son trône, nu et découvert. Le seul moyen d'être gracié et sauvé de sa colère, une fois face à lui, se trouve en Jésus-Christ seul. Lisons le verset 14 pour conclure. Toujours en Hébreux 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ce verset contient la solution pour échapper à la colère de Dieu et pour se réconcilier avec lui. Cette solution est unique. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Oui, le péché que nous produisons produit inévitablement l'irritation de Dieu. La Bible affirme que l'homme est incapable, par ses propres forces, d'être agréable à Dieu. Aucun effort humain ne saurait réparer l'offense que nous lui faisons jour après jour. L'homme vient au monde pécheur, rebelle, ennemi de Dieu, car il est esclave du péché. Cependant, Dieu, dans son amour, nous a offert son Fils Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, qui tend son trône céleste, pour venir s'incarner en homme, afin de prendre sur lui la colère de Dieu que je méritais, à la croix. Le troisième jour, il est ressuscité, ayant vaincu la mort et le péché. Le pont de réconciliation entre Dieu et les hommes existe. Ce pont, c'est Jésus-Christ. Il est le seul médiateur, le seul chemin de salut. En 1 Timothée chapitre 2, verset 5, nous lisons, je lis, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Si vous mettez votre foi aujourd'hui et votre confiance totale en Jésus-Christ, si vous décidez de le suivre, si vous vous repentez et délaissez vos fautes et vos transgressions, alors Dieu vous sauvera, véritablement et totalement. Vous appartiendrez à Dieu, vous deviendrez son enfant bien-aimé et votre destination finale sera la vie éternelle. Vous échapperez à sa colère, car Christ a déjà tout payé à la croix. Tout payé à la croix. C'est pour cela qu'il est appelé la victime expiatoire, dans le verset 14 que nous venons de lire. Et vous devez venir à lui, sinon vous payerez vous-même le prix élevé d'avoir offensé la sainteté de Dieu. Dieu nous ouvre les bras, la grâce et le salut sont disponibles. Après la mort, il sera trop tard. Il est temps de faire un choix. Je vous encourage à faire le bon. Choisissez la vie. Choisissez Christ. Pour terminer, la parole nous suit. Elle a été déclarée. Personne ne peut la fuir. Elle finira par nous justifier, si nous acceptons Christ, ou bien s'abattre sur nous. Cela dépendra de notre positionnement face à Christ. Avons-nous accepté le don gratuit de Dieu en se soumettant à sa seigneurie? Ou bien l'avons-nous refusé, préférant notre fierté, le monde et notre péché si précieux? La parole de Dieu, mes amis, sera le jour du jugement, une épée qui s'abattra violemment pour ceux qui auront refusé de délaisser leur péché pour venir à Christ. Ces hommes, ces femmes récolteront le juste salaire de leur vie. La colère de Dieu se déchaînera sur eux. Ou bien, Dieu nous laisse une alternative. La parole sera l'instrument de la justification pour ceux qui ont accepté le don de Dieu. Mais le trône de Dieu est entouré de grâce et de miséricorde pour celui qui se repent. Dieu demande une réponse, car sa parole ne tolère ni l'indifférence, ni la désobéissance. Il faut se positionner. Refuser de prendre une décision claire aujourd'hui, c'est tout simplement demeurer sous sa colère. Demeurer dans l'erreur doctrinale et l'errance spirituelle. La parole de Dieu est éternelle, comme le chapitre 24, verset 35 de Matthieu nous le dit. Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Je voulais remercier aussi l'Église, les anciens, John, pour avoir donné m'avoir permis de donner ce message ce matin. Je suis très honoré. Et je suis aussi très content d'appartenir à une Église qui met la parole au centre, qui met Dieu au centre. Et voilà, je voulais que ce matin soit un encouragement à persévérer dans la bonne voie. Dieu nous incite à continuer, à connaître la parole, à sortir l'arme du fourreau, car elle est tranchante. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, qui est toujours juste, qui traverse le temps et les époques, qui est vraie, qui est vérité. Merci Seigneur, car elle nous aide à nous repérer, elle nous aide à avancer, elle nous aide aussi à te connaître et à t'aimer. Elle nous taille, elle nous forge. Seigneur, aide-nous à avoir du discernement. Aide-nous aussi à avoir de l'amour les uns pour les autres. Donne-nous un amour pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher dignement. Je te remercie pour chaque personne ici présente. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta fidélité est si impressionnante. Jour après jour, Seigneur, tu restes là, comme un puissant arbre, comme disait Serge la semaine passée. Un arbre qui ne bouge pas, enraciné. Aide-nous, Seigneur, à rester proche de toi. Car toi, tu ne bouges pas, Seigneur. Tu es immuable, tu es solide. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants, à n'être pas des auditeurs oublieux, mais des enfants qui ont soif et qui ont faim de ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Un dernier mot. Pour les chrétiens, pour ceux qui appartiennent déjà au Seigneur, cela est aussi valable. Laissons-nous transpercer, afin de croître à la ressemblance de notre Rédempteur, car cela lui est agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ encore personnellement, laissez-vous transpercer par la parole, ne la fuyez pas. Dieu vous aime personnellement, il a à cœur de vous sauver. Laissons-nous transpercer par la parole. Je vous remercie.